comment se déroule un exposé de thèse? C'est très simple. Une introduction, un développement, une conclusion. Donc les objectifs, c'est vraiment cette étape-là. Hein, les objectifs vont être dans l'étape de développement. Donc dans votre introduction, vous indiquez les objectifs. Vous présentez le plan et l'organisation des idées. D'accord? Et ensuite, vous précisez les idées fortes de votre thèse. Donc, le but, ce n'est pas de faire dans votre introduction une revue bibliographique, parce que ça, vous l'avez fait dans votre manuscrit. C'est vraiment ces trois points-là. Hein, parce que dans l'exposé de thèse par rapport aux mémoires, vous êtes vraiment dans l'action de ce que vous avez fait. Ensuite, vous avez le développement. Alors, le développement, ça va être simple. C'est à partir de l'organisation de mes idées, hein, de mes idées fortes, je vais alterner des exemples théoriques, de la théorie et des exemples. Je vais identifier les bons exemples, c'est-à-dire en gros des images. Mon PowerPoint, il est fait uniquement pour ça. D'accord? Voilà. Ne faites pas une soutenance ou un exposé avec que de la théorie ou que des images pratiques. Faut vraiment alterner les deux. C'est-à-dire qu'on voit la progression de la démarche scientifique. Ensuite, une conclusion. Une conclusion, en fait, c'est assez simple, c'est l'inverse d'une introduction. Vous faites une synthèse de vos idées fortes, celles que vous avez définies ici. Donc, je vais les reprendre. Je vais revenir sur mes objectifs. Donc, idées fortes, c'est une. Les objectifs, c'est deux, trois. Hein? Donc, je dis, voilà, je suis arrivé à tel objectif, tel objectif, tel objectif. Et après, j'ouvre sur des perspectives. Alors, encore une fois, évitez les perspectives, on va dire, générales, du style, dans 10 ans, peut-être, éventuellement, on aura une application. Hein, ce n'est pas vraiment des perspectives. Une perspective, c'est, en gros, à l'instant T, quelles seraient les idées pour développer votre travail. Alors, pareil que les objectifs, ici, 2-3 idées. D'accord? Et restez vraiment dans un domaine de démarche scientifique, plutôt encore une fois que des applications. On voit tous des articles aujourd'hui, on vous explique que vous pouvez séquencer de l'ADN avec un nanopore. C'est très rigolo, c'est très sympa, mais ça ne se fera jamais. Alors, après, là, vous passez dans votre diaporama. Alors, le diaporama, hein, ça sert à quoi? Alors, le PowerPoint, on y met beaucoup d'importance. Figurez-vous qu'il y a encore 10 ans en arrière, on faisait ça avec des acétates. Donc, autant dire qu'on ne pouvait pas faire 2 millions de diapos. C'était beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, le diaporama, il est fait pour vous. Il n'est pas fait pour les gens qui sont là, il est fait pour vous, le diaporama. C'est une fonction de mémorisation. En gros, j'ai préparé mon exposé hier à peu près en 10 minutes. Je ne sais pas de quoi il parle, mais j'ai mon diaporama, c'est bien, j'ai l'enchaînement de mes idées, j'ai ça. Donc, ça permet un codage de l'information, un codage multiple. Alors, qui fait des sciences ici? Sciences dures. Lettres. Alors, en lettres, vous faites peu de diaporamas, je crois. Voilà. Donc, nous, en sciences dures, on a un truc qui est génial, c'est qu'on fait plein de spectres, plein d'expériments, donc on fait beaucoup d'images. L'avantage du diaporama, c'est que quand je veux décrire une courbe, c'est plus simple de l'avoir sur un diapo plutôt que de vous dire que les points augmentent ou diminuent. D'accord? Donc c'est fait pour ça. Ça permet de doser l'information. Ça veut dire que ça va permettre de ne pas trop en dire, de ne pas aller se perdre dans des explications. Ça permet aussi de faire ressortir les points clés. C'est-à-dire que sur mon diaporama, je n'ai que les points clés. Hein. J'ai pas de texte, j'ai pas de phrase, sauf à la limite quand je fais un cours, si je fais une définition. Mais le but, c'est de ne pas mettre de phrase, c'est de mettre vraiment les points importants, les points clés. Ça va permettre la compréhension. C'est-à-dire que vous allez décomposer l'information. Alors typiquement vos courbes. Et ça va permettre de visualiser des concepts. Alors c'est vrai que des petits schémas, des petits dessins, c'est toujours plus parlant que d'essayer de l'expliquer par de longues phrases. Et ça permet d'augmenter l'attention de vos spectateurs, des gens qui écoutent. Si vous faites un taux de rétention d'un cours où vous n'avez pas de support, c'est à peu près 5%. Dès que vous avez un support type PowerPoint, vous augmentez à 30%. Soit votre jury de thèse va n'intégrer que 30% de l'information que vous leur avez donnée. Ça, donc, donnez-la bien. quelques pratiques. Alors ça, vous savez tous faire du PowerPoint hein, maintenant, je pense. Donc, conception, hein, donc en mode paysage, 10 lignes max et vous limitez le texte. 24 points. Hein, évitez comment on appelle ça, les textes en dessous de 24. Et trois couleurs bien contrastées, ça suffit. Alors l'exemple ici, c'est que j'ai mis un bleu, vous ne le voyez pas. Alors, donc je m'amuse à faire des conneries comme ça dans mes diaporamas. Ça sert à rien de mettre. Et pourtant, ça c'est Word hein, qui vous le donne. Donc trois couleurs, ça suffit. Bien distinctes. Évitez les dégradés de couleurs parce qu'on ne les voit pas. Évitez le jaune. Évitez bon, tout un tas de petits trucs comme ça. Quand vous faites des courbes, mettez les points très gros et les lignes en très gras. Ayez une ligne graphique un peu homogène. Hein, et. Alors les animations, faites un peu attention aux animations. Pourquoi? Parce qu'en général, on voit des choses, ça bouge, et alors on ne vous écoute plus du tout. Alors si vous devez faire des animations, maintenant que vous êtes tous des stars en PowerPoint, à la limite faites une vidéo. Et pendant la vidéo, vous taisez. Alors vous faites une vidéo de 3-4 secondes pour montrer quelque chose, et après vous le commentez. Le problème de l'information au fur et à mesure, c'est que, comment dire, vous allez être scotché devant votre ordinateur à chaque fois à taper. C'est pas génial. Honnêtement, je trouve pas ça génial. Surtout qu'en plus, dans votre discours, vous n'allez pas l'apprendre par cœur. Donc vous n'êtes pas minuté. Bon, c'est pour un cours, c'est bien. Quand vous faites cours, hein, vous passez les choses les unes après les autres. Vous pouvez le faire parce que là, les étudiants, de toute façon, ils écrivent. Donc ça leur permet de vous écouter. Vous mettez un petit bout de texte, ils vous écoutent et après vous mettez le reste. Pour une soutenance, ça sert à rien. D'accord? Si ce n'est qu'à vous confiner dans un espace de 2 cm carrés. Alors déjà que vous êtes stressé, déjà qu'on est tous comme ça quand on soutient. Alors si en plus il faut que je pense à faire des clics, c'est un peu un enfer. Vous allez avoir une quarantaine de diapositives. Donc 40 clics, ça suffit. Si vous multipliez par 2, ça fait 80. Par 3, ça fait beaucoup. Et là, c'est même pas la peine, quoi. Vous faites que cliquer. Dans une conférence, pareil. Alors là, vous avez 12 minutes, c'est court. Moins vous passez de temps sur votre diaporama, à gérer votre diaporama, mieux c'est. Surtout qu'en plus, vous aimez bien maintenant arriver avec votre laser, le truc là pour faire. Et quand vous avez les trois boutons les uns à côté des autres, on se plante à chaque fois. Évitez. Utilisez juste un laser, le PowerPoint là, à distance, évitez parce qu'on se trompe avec les boutons, ça fait mauvais genre et ça fait qu'augmenter le stress. Alors, voilà, donc on continue sur les diaporamas. Alors, important, un seul mot-clé, un seul idée par diapo. Ne faites pas des diapos avec 10 idées, hein, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, un sujet par diapo, vous pouvez scénariser. Faites un petit scénario. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites des phrases et puis à un moment donné, arrive ce qui a marqué là. Ça marche très très bien. Si vous voulez, je peux même vous faire un exemple assez rigolo. Donc, si je prends ça, voilà, vous arrivez. Et puis, alors, voilà comment vous arrivez à scénariser une diapo. C'est-à-dire, dans un premier temps, je vais vous décrire mon parcours professionnel, hein, à savoir les thématiques, les activités de recherche. De là, je synthétiserai un certain nombre d'activités qui m'ont permis d'élaborer un projet. C'est-à-dire, vous avez tous les mots-clés de toute la phrase. Comme ça, vous scénarisez très bien. C'est très facile à faire. Parce que, alors c'est très bien à faire pour les premières diapos, parce que ça permet de se lancer. Mais voilà, donc ça permet en fait de voir la logique. Et si vous jouez comme ça, le gros avantage, c'est que les gens ne lisent plus les diapos. Ils vous écoutent, vous. Et ils se raccrochent aux mots-clés de votre diaporama. Puis en plus, ça vous sert à vous. Après, bon, ça va coordonner et ça va être complémentaire de l'exposé. Hein. Le diaporama, il coordonne et il est complémentaire. Mon discours, c'est pas ce qu'il y a écrit. D'accord? Je me raccroche sur les mots-clés, c'est une complémentarité et ça me permet d'avoir mes idées en tête. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appris mon discours par cœur. Et il faut qu'il soit fait aussi avec pertinence, c'est-à-dire qu'on choisit les supports pertinents. En termes de temps, alors on va dire 1 à 2 minutes par diapo. Je sais que ça fait rire tout le monde. C'est vrai que si vous mettez une grande courbe, ça peut aller à 45 secondes. D'accord? En général, on met les courbes et les mots-clés à côté, on arrive à 1 minute. Vous avez des diapos qui peuvent durer 5 minutes. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est la diapo toutes les 15 secondes. Vous savez, la diapo de... Alors là, on voit la courbe qui augmente. Là, on voit qu'elle diminue. Là, on voit que ça sert strictement à rien. D'accord? Donc, une diapositive, elle a une durée de vie. Préservez de la souplesse dans vos diapos, c'est-à-dire que n'en mettez pas trop. Ne mettez pas de timer. Ne mettez pas de truc là qui défile. Pourquoi? Parce que si jamais le jour de votre soutenance ou le jour de votre exposé, vous avez un coup de stress en plein milieu, si votre diaporama est trop rigide, vous êtes mort. D'accord? Donc conservez, faites en sorte que, bon, globalement les idées y sont, le discours y est, je suis à peu près calé en temps, et ça suffit. Et surtout, testez en conditions réelles les couleurs, les tailles de police. Alors, conditions réelles veut dire dans la salle où vous allez soutenir. Pourquoi? Parce que si vous soutenez sur un écran comme ça, autant vous dire que 24, ça va être compliqué. Si je soutiens sur un écran immense, je peux me permettre de mettre des caractères 18. Je peux me permettre d'en mettre un peu plus sur mes diapos. Ici, si je vous mets certaines courbes, je vais être obligé de faire des points énormes. Donc toujours le tester. Tester les couleurs. Vous savez que ce truc-là, il marche avec 16 couleurs, hein. Alors, il y en a maintenant, il marche avec un peu plus. Mais regardez si j'ai du bon contraste, si mes couleurs sont bonnes. Enfin, faut que j'aille le tester. Évitez le... Alors des fois... Ah non, là, c'est pas une bonne idée. Donc, voilà, tester en conditions réelles. Alors là, sur le cadre d'une soutenance, vous avez l'ordinateur, enfin, tout ça, vous le connaissez. Donc, même si par hasard, vous faites quelques animations, vous allez pouvoir tester les animations sur l'ordinateur dit avec le logiciel dit. Des fois, on ne peut pas. Donc, quand on ne peut pas, le tester. Donc, en gros, vous allez en conférence. Vous ne pouvez pas tester en conditions réelles, vous faites votre diaporama sous forme PDF et surtout avec vous faites le point PPTX et PPT, zéro animation. Pourquoi? Parce que vous arrivez avec vos jolies animations et là, c'est une vieille version, ça ne prend pas en charge vos animations et c'est le drame. C'est-à-dire que vous avez toutes vos courbes les unes sur les autres. Imaginez-vous que vous fassiez ça et puis que c'est un entretien d'embauche. Comment vous dire?